Alors, bonjour à tous. Est-ce que le Seigneur a été bon envers vous cette semaine ? Est-ce que le Seigneur a été bon envers vous cette semaine ? Ah, voilà, merci. Bon, bah, très bien. Très bien, très bien. Merci Seigneur pour la louange. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Actes. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5 à partir du verset 17. Actes chapitre 5 à partir du verset 17 et on lira jusqu'au verset 42. Donc je vais partager la lecture avec Mathieu. Donc Actes chapitre 5 à partir du verset 17 jusqu'à 42. On va commencer à lire et je prendrai la suite. Vas-y.
Alors, cependant, le souverain sacrificateur et tout ce qui était avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit : Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui. Étant arrivés, ils convoquèrent les Sanhédrins et tous les anciens des fils d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant : Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire : Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils l'eurent amené en présence des Sanhédrins, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes : Nous n'avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez retomber sur nous le sang de cet homme ? Pierre et les apôtres répondirent : Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères est ressuscité, Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de cette chose, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.
Merci. Je prends la suite, donc à partir du verset 33. En les entendant, ils étaient exaspérés et auraient voulu les faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et donna l'ordre de faire sortir ces hommes un instant. Puis il leur dit : Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous avez l'intention de faire à l'égard de ces hommes. Car il n'y a pas longtemps que se leva Teudas, qui se disait quelqu'un, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui lui obéissaient furent mis en déroute, et il n'en resta rien. Après lui se leva Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il entraîna du monde à sa suite. Il périt aussi, et tous ceux qui lui obéissaient furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, alors elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Prenez garde de peur de vous trouver en guerre contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis. Puis ils appelèrent les apôtres, les firent battre de verges, leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Ceux-ci retirèrent de, Ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Et chaque jour, au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Christ Jésus. Amen. Amen. On va prier.
Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, Saint-Esprit, je t'adore. Je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, Jésus, je t'adore, je te
Éternel Dieu Tout-Puissant, sois béni, sois élevé, Seigneur. Merci pour les chants que nous avons entendus, Seigneur. Merci pour les prières, Seigneur Tout-Puissant. Merci parce que tu as le plus bon nom, Seigneur Tout-Puissant. Merci parce que tu es un Dieu d'amour. Merci parce que tu es incomparable, tu es inébranlable et tu es Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous enseigne, qui nous fortifie, qui nous a montré à travers tous les temps ce que tu as fait pour que ta parole puisse nous parvenir, Seigneur Tout-Puissant. Et c'est par ta parole que nous avons accès à la vie éternelle, Seigneur Jésus. Je te prie de nous parler encore ce matin, de nous fortifier, Seigneur Jésus, et que nous puissions garder, Seigneur, ce que tu auras mis dans le cœur de chacun de nous. Sois béni, sois élevé, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, comme la semaine dernière, donc pour ceux qui étaient là, donc on continue avec les Actes des Apôtres. Donc on est dans la Nouvelle Alliance, donc dans le début de l'Église. Et paradoxalement, en fait, cette nouvelle ère marque les temps de la fin. Alors pourquoi ? Si vous vous souvenez, dans Actes 2, dans la Pentecôte, l'apôtre Pierre se lève et il cite le prophète Joël. Il dit que le prophète... l'apôtre Pierre dit que voilà, ce qui vient de se passer avait déjà été annoncé par le prophète Joël et que justement ce phénomène en question serait précurseur des temps de la fin. Donc c'est dans Actes chapitre 2, versets 16 à 19. Voici ce qu'a dit le prophète Joël dans les derniers jours, donc dans les temps de la fin. Dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Donc, dans les derniers jours, je déverserai mon esprit. Donc, dans les temps de la fin. Donc oui, nous vivons ces temps que le Seigneur a décrétés comme étant les temps de la fin. Alors... peut-être quelqu'un va dire, oui, mais ça fait, dans ce cas-là, ça fait 2000 ans qu'on vit les temps de la fin. C'est vrai. Mais ce n'est pas parce que ça fait 2000 ans qu'on a le temps. Le Seigneur Jésus a dit, vous connaissez ni le jour, ni l'heure. Que ça fasse 2000 ans, 3000 ans, nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure de son retour. Il a dit, le Seigneur Jésus, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Vous vous souvenez au temps de Noé? Jusqu'au déluge, les gens vivaient, ils faisaient leur vie, ils mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où la pluie a commencé à tomber. Et ce n'est pas quand la pluie a commencé à tomber que les gens pouvaient se précipiter sur Noé. Ah oui, Noé, vas-y, prêche-nous encore, on va se convertir. C'était trop tard. Donc la semaine dernière, on a rappelé, donc au début des Actes des Apôtres, on a évoqué les différentes interventions de Pierre et Jean. Et dans Acte 3, donc on a vu que Pierre et Jean se rendaient au temple, donc à l'heure de la prière, et que Dieu les a utilisés pour accorder la guérison à un boiteux. Donc Pierre a ensuite précisé à tout le peuple que la louange ne devait pas lui être due à lui, mais au Seigneur qui avait permis la guérison. C'est le Seigneur qui guérit et c'est le Seigneur qui sauve. Amen. Donc dans le même chapitre, donc au chapitre 3, donc les apôtres prêchent l'évangile, ils prêchent la vérité avec autorité et devant tout le peuple et les instances religieuses. Donc il y a les sacrificateurs, les scribes, les sadducéens, ils entendent le message des apôtres et ils sont excédés. L'évangile leur fait mal. L'évangile fait mal aux religieux. Ils pensaient que l'histoire de Jésus était terminée avec sa mort et ils ne se rendent pas compte que depuis, en fait, c'est pire. Ils ont voté en conseil pour la crucifixion de Jésus, mais maintenant, ils se retrouvent en face de personnes qui continuent à proclamer avec certitude que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Et non seulement il est ressuscité, mais il continue à agir en son nom, au nom de celui qui était supposé être mort, mais il est bien vivant. Pour les Sadducéens, les scribes, les pharisiens, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ, on pensait avoir réglé son affaire, et finalement, il y a des gens qui continuent à agir en son nom, et qui continuent de le rendre gloire. Des gens entendent la parole, ils se convertissent, ils louent le Seigneur, on voit, il y a de nombreuses guérisons, on impose les mains, les gens sont délivrés, l'histoire de Jésus continue de prendre de l'ampleur, même s'il n'est plus là physiquement, on sait que de là où il est, c'est lui qui continue à gérer toutes ces choses-là. Il est au contrôle. Alors les instances religieuses ne pouvaient pas laisser faire ça. Pierre et Jean ont été convoqués devant le tribunal, donc devant le Sanhédrin. On a vu que selon la tradition, donc le Sanhédrin était composé de 70 personnes, plus le souverain sacrificateur. Donc toutes ces personnes-là en face de Pierre et Jean. Donc tous ces experts, donc ces membres-là qui faisaient partie du Sanhédrin, c'était vraiment des experts de la loi juive. Donc tout ce gratin-là pour s'opposer au message de la parole de Dieu. Donc Pierre les prêche encore, il évoque point par point, voilà cet homme-là a été guéri par la puissance de Jésus, lui que vous avez crucifié, mais qui est ressuscité des morts. Pierre prêche la parole avec autorité, et dans Actes 4, verset 11, il leur affirme, la pierre que rejetaient les bâtisseurs est devenue la principale, celle de l'angle. La suite, vous la connaissez, cette fabuleuse déclaration de Pierre, vous vous souvenez? Voilà. Il n'y a de salut en aucun autre, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc Pierre et Jean sont devant le Sanhédrin. Pierre prêche et il arrive et il dit « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Donc dans Acte 4, verset 12. On a vu que le conseil n'a rien pu rétorquer à tous les coups que Pierre était en train de leur envoyer. Tout ce qu'ils ont pu faire, c'est menacer les disciples, alors que leur foi, elle, était restée ferme. Ils ne pouvaient rien faire, la parole de Dieu était en train d'être proclamée et elle avançait et les gens étaient délivrés. Les gens croyaient à la parole de Dieu. Mais c'est vrai que devant cette opposition, les apôtres ont quand même fait cette prière au Seigneur, permets-nous d'annoncer ta parole avec assurance. Dans Actes 4, versets 24 à 31, où on a toute la prière des apôtres où il dit, voilà Seigneur, tu vois comment le monde est chamboulé, les gens s'opposent à ta parole, mais permets-nous de pouvoir annoncer ta parole avec assurance. La parole de Dieu avance, malgré l'opposition, la main de Dieu est toujours présente. On voit des prodiges, des guérisons, le nombre de croyants augmente de jour en jour. Mais l'adversaire, lui, il ne lâche pas. Il est tenace. Comme on voit dans la tentation dans le désert, la Bible nous dit que le diable s'en allant, cherchant une autre occasion. Alors ça, c'est tout ce qu'on a vu la semaine dernière. Et maintenant, on arrive à notre message. Donc on est toujours avec les dirigeants religieux et ils reviennent encore à la charge. Le souverain sacrificateur et tous ceux qui l'accompagnent, tous ceux qui voulaient en découdre avec les apôtres. C'est comme s'ils voulaient prendre leur revanche. La dernière fois, Pierre et Jean leur ont prêché, ils n'avaient rien à rétorquer, ils ne voulaient pas se laisser faire. Ils se représentent encore devant les apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont cette fois? La Bible nous dit quoi? Ils se levèrent remplis de jalousie. Chapitre 5, verset 17. Ils se levèrent remplis de jalousie. Donc les pharisiens, les scribes, les sacrificateurs, voilà. Ils voient que devant eux, ils ont des apôtres qui continuent à prêcher au nom de Jésus, alors qu'on leur avait interdit. Les gens sont délivrés, les gens croient à la parole de Dieu. La Bible nous dit quoi ? Ils se levèrent remplis de jalousie. Eux, tous ces experts de la loi juive, ils sont jaloux. Le ministère des apôtres a du succès. Ils continuent avec cette histoire de résurrection. Et vous vous souvenez que c'était vraiment les pharisiens qui étaient garants de la doctrine qui était enseignée. Donc les experts de la loi juive, vous savez, dans les évangiles, à chaque fois, ils se présentaient devant Jésus. « Ah, voilà, il y a telle situation. Moïse, il a dit qu'il fallait faire ceci. Toi, qu'est-ce que tu dis ? Il y a telle situation. Moïse a dit qu'il fallait faire cela. Toi, qu'est-ce que tu dis ?» Donc, ils connaissaient la loi sur le bout des doigts. Et là, maintenant, ils se trouvent devant des gens qu'ils qualifient de sans instruction, qui prêchent la parole de Dieu avec autorité. Le message de Dieu avance. Ils sont jaloux. Et vous vous souvenez aussi des Sadducéens, eux aussi s'étaient présentés devant Jésus. Pourquoi ? Parce que eux, ils reniaient la résurrection. Pour eux, il n'y avait pas de résurrection des morts. Tout ce qui était miraculeux, pour eux, ça n'existait pas. Mais le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur leur avait dit ? Vous ignorez la puissance de Dieu, vous ignorez les Écritures. Alors on a ces hommes, donc prétendus sans instruction, qui prêchent le retour à la vie, alors que les Sadducéens étaient formellement contre cette doctrine. Donc, non seulement ils ont mis la main à nouveau sur Pierre et Jean, comme au chapitre 3, mais cette fois-ci, ils expriment leur jalousie. Ils sont vraiment contre ce message de l'Évangile. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a vraiment un combat qui est en train de se jouer là. Ils parlent du royaume de Dieu et les gens sont jaloux. Les gens qui sont censés être experts de la parole de Dieu. Au chapitre 4, on a vu... Au chapitre 4, verset 2, « Excédés de ce qu'ils enseignaient au peuple. » Excédés de ce qu'ils enseignaient au peuple, en la personne de Jésus, la résurrection d'entre les morts. Et à présent, on voit qu'ils sont jaloux. Tout d'abord excédés, et maintenant jaloux. Jaloux à cause de quoi ? À cause de l'Évangile. À cause de l'Évangile, à cause de la parole de Dieu. Ils savent que c'est la vérité, mais ils ne l'acceptent pas, ils sont jaloux. C'est grave. Les disciples n'ont rien fait, ils sont oppressés. Simplement parce qu'ils annoncent Jésus-Christ et on les transporte en prison. La Bible nous dit dans la prison publique. Mais qui va en prison ? C'est les bandits, n'est-ce pas ? Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils annoncent la parole de Dieu et on les met en prison. Dans la prison publique. Là, on met tous les malfrats, les bandits. C'est là aussi on met ceux qui annoncent l'Évangile. Et encore une fois, qui les met là-bas ? Des pharisiens, des scribes, des sacrificateurs, donc des gens qui sont censés être experts de la loi, mais parce que les apôtres parlent de Dieu, on les met en prison. Ce n'est pas des païens, ce n'est pas des gens qui ignorent Dieu. Ils sont censés, à chaque fois ils se disent dans les évangiles, légitimes, nous on est les descendants d'Abraham, nous on pratique la loi de Moïse, mais quand les apôtres parlent de Dieu, ils les mettent en prison. Et la suite nous dit quoi ? Un ange du Seigneur va venir ouvrir les portes de la prison pour les libérer. L'Évangile doit continuer d'avancer. Amen.
Amen.
Mais vous voyez l'enjeu, vous voyez le combat, vous voyez comment le malin excite les gens à combattre l'Évangile. Vous avez vu dans l'Évangile de Matthieu, au moment de la naissance de Jésus, l'ange intervient auprès de Joseph en disant « Fuis en Égypte ». Pourquoi ? Parce que Hérode, il est excité. Ah oui, tous les nourrissons, il faut les exterminer. Vous imaginez, il y a un combat derrière. L'ange dit, va en Égypte et je te ferai signe à nouveau quand tu pourras revenir. Il y a un combat vraiment derrière. Mais l'Évangile doit avancer. Et le Seigneur est là pour faire justement annoncer sa parole. Amen.
Amen.
Donc on a un nouveau conseil des religieux. Donc encore une fois, tout le gratin, tout le monde est convoqué. Les anciens, sacrificateurs, scribes, tout le monde est là. Il faut traiter le cas de ces apôtres-là parce que voilà, ils sont excédés, ils sont jaloux de ce qu'ils prêchent. On va faire chercher les apôtres en prison. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ne sont pas là. Donc ils ont été enfermés en prison. On va les chercher, personne. Les gardes sont en place. La porte de la prison est bien fermée, mais il n'y a personne à l'intérieur. La Bible nous dit que le commandant et les sacrificateurs étaient perplexes. Mettez-vous à leur place. On les enferme en prison. Le lendemain, on va les chercher. Ils ne trouvent personne.
Mais il voit bien que les gardes sont devant la cellule, mais on ouvre, il n'y a personne. Sûrement, ils ont dû se poser des questions. Et qui sont ces hommes qui sont capables de s'évader de prison? Vous sonnez, là, c'est prison break, c'est ça? Hein? Est-ce que les apôtres se sont tatoués les plans de la prison et sont sortis? Non. C'est l'ange de Dieu qui est intervenu et les a délivrés. Amen.
Amen.
Ils ont dû se poser des questions, mais ces gens-là, ils viennent, ils nous prêchent, on les met en prison, ils sortent. Qu'est-ce qui se passe? Et puis là, ce n'est pas juste Pierre et Jean, là, c'est les apôtres. Dans Acte 4, c'était juste Pierre et Jean, là, on a les apôtres. Comment ils ont fait? Est-ce qu'ils avaient un complice parmi eux? On ne sait pas. Enfin, eux ne savent pas. Parmi les membres du Sanhédrin, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait été gagné à leur cause et qu'ils avaient délivré en cachette? Non, c'est l'ange de Dieu qui était intervenu. Ils sont sortis et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils continuent d'enseigner, de prêcher la parole de Dieu. On voulait leur régler leur compte. Les sacrificateurs, les scribes ignorent où ils sont. Mais qu'est-ce qu'on leur dit? Mais en fait, les gens que vous avez jetés en prison, ils sont là dans le temple et qu'est-ce qu'ils font? Ils prêchent. On les a défendus de prêcher. On les met en prison, l'ange les délivre et ils retournent encore dans le temple prêcher. Mais vous avez ceux que vous avez enfermés là? Mais non, ils sont juste à côté là, ils prêchent. Ils prêchent, ils sont sortis, ils prêchent. La parole de Dieu, le Seigneur est là. Personnellement, moi, j'aurais été effrayé. Les gens, on met en prison, ils sont juste à côté, ils parlent. Comme si de rien n'était. On les a menacés, on les a enfermés en vue d'une comparution, en vue d'une comparution. Et non seulement ils se sont évadés de prison, on ne sait pas comment. Non, eux ne savent pas comment. Ils ne se sont même pas enfuis, mais ils continuent de faire exactement ce qu'on leur a défendu de faire, annoncer la parole de Dieu. Je pense que ça a dû calmer les religieux quand on cherche, mais les apôtres n'ont pas manifesté de violence. Ils savent que ces scribes, ces pharisiens sont les responsables du peuple, donc ils n'ont pas été violents. Ils avaient à présent peur d'être lapidés par le peuple, justement ces pharisiens, parce que maintenant les gens du peuple avaient une grande estime justement pour ces apôtres-là. Donc maintenant ils se sont dit, ah mais maintenant si on les violente, c'est le peuple qui va se retourner contre nous. Imaginez-vous à la place du commandant là. Il va chercher maintenant des personnes qui sont sorties de prison, qui chassent les démons, qui guérissent les boiteux. Il faut avoir maintenant du courage maintenant d'aller affronter le peuple et d'aller les ramener en prison. Mais voilà, les disciples ont suivi, ils sont retournés dans le Sanhédrin. Les choses vont se faire sans violence. Les disciples auraient pu se retourner contre le peuple en disant « Ah, vous avez vu, nous on prêche la parole de Dieu, mais maintenant les sacrificateurs sont contre nous. » Non, ils sont retournés vers le Sanhédrin. Pour eux, leur but, c'était de rester semblable à leur maître. Dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 20 et 23, 1 Pierre, chapitre 2, versets 20 et 23, je vais lire pour vous. « En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des... Mais si vous endurez la souffrance, alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Jésus, en son temps, a dû faire face à une opposition, mais lors de son arrestation, voilà, il a suivi. Et les apôtres agissent pareil. Et là encore, rebelote, les apôtres, devant tout le gratin, tous les membres du Sanhédrin, scène maintenant à laquelle on est habitué, donc tous les disciples devant le tribunal, et on leur fait remarquer à nouveau qu'on leur avait interdit de prêcher au nom de Jésus. Et que maintenant, par leur faute, c'est tout Jérusalem maintenant qui est contaminé. Par quoi? L'Évangile. Tout Jérusalem est rempli maintenant de cet enseignement. Donc les membres du conseil ne leur ont même pas posé la question de savoir, mais en fait, qui vous a sorti de la prison là? Ils n'ont même pas abordé ce sujet-là. Mais maintenant, ils leur défendent à nouveau de... On vous avait interdit de parler de ce nom de Jésus-là. Et en plus, vous nous accusez de l'avoir crucifié. Ce qui était vraiment important pour eux, c'était vraiment arrêter cette propagation de l'évangile. Le souverain sacrificateur est agacé, et en plus de ça, ils sont accusés d'avoir commandité la mort de Jésus. C'est ce que Pierre leur avait dit au chapitre 4. Vous qui avez renié le maître, vous l'avez crucifié, mais Jésus-Christ l'a ressuscité des morts. Amen. Donc ils ont vraiment de la haine envers ces apôtres, que non seulement ils continuent de prêcher Jésus, et en plus ils les accusent d'avoir crucifié le Seigneur. Donc là, les apôtres se trouvent quand même devant une situation qui est difficile. Donc ils sont encore devant les tribunaux, donc les instances du pays, mais ils ne se démontent pas. Au chapitre 4, Pierre leur avait posé la question, vous vous souvenez, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? Là, il ne pose même pas la question. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc au chapitre 4, il leur a posé la question. Donc on est là entre hommes de Dieu. Nous, on prêche l'évangile. Vous êtes les experts de la loi. Mais selon vous, est-ce qu'il est plus judicieux de vous obéir ou d'obéir à Dieu ? Là, il n'a même pas posé la question. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous, on annonce la parole de Dieu. Pierre ne se démonte pas. Il rappelle encore une fois les faits. Dieu a ressuscité celui que vous avez tué. Encore une fois, il déclare ça devant des personnes qui sont hostiles à l'évangile. Mais il dit simplement la vérité. Il fait ce qu'il aime bien faire, il prêche le royaume des cieux. Jésus est le sauveur et la repentance et le pardon des péchés passent par qui ? Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus, et c'est ce que Jésus annonçait quand il était déjà là. Avant même qu'il choisisse ses disciples, qu'est-ce qu'il disait ? Il commençait à prêcher, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dans Matthieu 4, verset 17. Donc encore une fois, on a le même résultat. Pierre déclare les vérités et ça met mal le conseil. Il déclare que Jésus est prince et sauveur et pour tous les membres du conseil, c'était trop. En eux, ils ne voyaient pas Jésus comme étant leur sauveur. Donc pour eux, cette parole-là ne pouvait pas s'appliquer. Pour les Juifs, il faut bien comprendre que les mots ont un sens qui est fort. Donc Dieu a fait honneur à Jésus et il a établi sauveur. Autrement dit, nous, conseil, on a besoin d'être sauvés. Et nous avons accès au pardon des péchés uniquement grâce à Jésus. Ils n'étaient pas d'accord avec ça. Vous vous souvenez dans les évangiles, quand Jésus a guéri le paralytique, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Le paralytique avait été transporté par les quatre hommes. Tes péchés sont pardonnés. Qu'est-ce que les experts ont dit ? Mais c'est qui cet homme-là pour pardonner les péchés ? Et là, Pierre dit, le pardon des péchés passe par qui ? Jésus. Pour eux, ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord avec ça. Qui est cet homme-là qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu ? Mais Jésus, c'est Dieu, n'est-ce pas ? Donc, vous vous rendez compte que quand Pierre leur dit tout simplement que Jésus... Autrement dit, Jésus est Dieu, et que lui et ses disciples sont témoins justement de ces choses-là, sans parler du Saint-Esprit qui est donné à tous ceux qui lui obéissent. Autrement dit, nous conseil, nous n'avons pas le Saint-Esprit de Dieu en nous. C'était dur pour le conseil d'entendre ça. La pierre est en train de les tailler en pièces. Jésus-Christ que vous avez crucifié, il est ressuscité. Nous, on continue de prêcher le royaume de Dieu. Et la repentance et le pardon passent par qui ? Jésus-Christ. Alors qu'eux leur avaient défendu de continuer de parler au nom de Jésus, ça ne passait pas. On voit pourquoi ils étaient excédés, pourquoi ils étaient jaloux, parce que ce qu'ils annonçaient, ça avançait. Et maintenant, tout le peuple les avait en haute estime. Et eux, là, ils étaient entre eux juste experts, mais rien. Mon peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Donc dans Acte 2, lorsque... Pierre prend la parole, donc dans Acte 2 au verset 37, la Bible fait ce commentaire. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. C'est dans le premier discours de Pierre. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Donc Pierre a commencé à parler et la Bible dit, « Ils eurent le cœur vivement touché. » Qu'est-ce qu'on va faire ? On passe du vivement touché à exaspéré, rempli de jalousie. La pierre encore prêchait l'évangile et là, les membres du conseil sont exaspérés, ils sont jaloux. Certains entendent l'évangile et se rendent compte qu'ils sont coupables devant Dieu. Ils essayent de faire la paix avec le Seigneur et de marcher correctement maintenant. Ils se repentent. Mais il y en a d'autres, non. Ils ont le cœur endurci. Ils entendent le message de l'évangile. Pour eux, c'est désagréable à leurs oreilles. La Bible dit qu'il voulait les faire mourir. Vous vous rendez compte? Ils prêchent le royaume des dieux. Et la Bible dit quoi? En les entendant, ils étaient exaspérés et auraient voulu les faire mourir. Tout ça parce qu'ils ont parlé de Jésus. Vous vous souvenez, Étienne? Pareil. Il a prêché le royaume de Dieu depuis l'Ancien Testament jusqu'à Jésus-Christ. En entendant cela, ils furent exaspérés dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Et vous connaissez comment Étienne a été exécuté ensuite. Donc c'est l'évangile, ce n'est pas une mince affaire. On ne peut pas ignorer l'opposition qui est là. Vous parlez à des gens, certains vont vous croire tout de suite, ils vont dire « Ok, j'accepte le message ». D'autres, ils vont dire « Ah bon, moi j'ai besoin d'un sauveur, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et la Bible dit « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Pourquoi ? Pour être sauvé. » Pierre a dit « Il n'y a sous le ciel. » Donc, tant que tu es sous le ciel, ce verset-là aussi t'inclut dedans. Amen.
Amen.
Il y en a qui croient et il y en a qui ont le cœur endurci. Pierre, dans son épître, nous dit « Sanctifiez dans vos cœurs Jésus-Christ Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Soyez prêts à vous défendre de quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vue. Quelqu'un te demande « Oui, mais toi tu crois au Seigneur, pourquoi ?» Est-ce que tu sais ce que tu vas lui dire? Soyez prêts à vous défendre de quiconque vous demande de l'espérance qui est en vous. On voit comment Pierre vivait ce qu'il prêchait. C'était dans 1 Pierre chapitre 3, versets 15 et 16. Et c'est là qu'on mesure vraiment l'importance du sujet de prière que les apôtres avaient fait lors de leur première comparution. Permets-nous d'annoncer ta parole avec assurance. Parce qu'il y a une opposition qui est là. Oui, c'est vrai que le Seigneur, la main du Seigneur est là, mais en face, l'ennemi excite les gens pour stopper l'évangile. Le conseil doit à nouveau se réunir pour délibérer. Et donc, il voit vraiment que ces apôtres-là, ils donnent du fil à retordre à ce conseil. Et parmi eux, on trouve un certain Gamaliel, donc docteur de la loi. Donc, il est aussi reconnu par tout le peuple. On sent que la situation est un peu tendue. Il se retrouve face à des hommes qui affirment avec foi leur assurance en Jésus-Christ. Et en plus, ils commencent à voir tout le peuple en leur faveur. Donc, il faut traiter ce sujet-là. Les membres du Sanhédrin doivent réagir. Donc, Gamaliel, il va demander à ses collaborateurs de réfléchir et à dire « Mais il sent qu'il y a un peu de tension. On a vu qu'ils étaient remplis de jalousie, on a vu qu'ils étaient excédés, donc l'évangile leur fait mal aux oreilles. » Ils décident de faire mourir les apôtres. Donc là, Gamaliel va prendre la parole et c'est comme pour mettre un peu d'ordre dans la salle. Il dit « Mais amis, il faut quand même qu'on réfléchisse à cette situation-là. » Il va leur rappeler, donc dans l'histoire récente, qu'il y a deux personnes qui se sont levées, qui ont amené aussi avec eux le peuple, et voilà, c'est tombé à la renverse. Il n'y a rien eu. Deux hommes se sont présentés, Teudas et Judas le Galiléen. Ils ont été précurseurs d'un mouvement, donc l'un à la suite de l'autre, et ça a fini par périr. Le mouvement s'est éteint. Si on met Jésus dans la même catégorie que ces hommes-là, effectivement, ça va s'arrêter. Mais non, l'évangile ne s'arrêtera pas. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Amen.
Amen.
Mais si Dieu bénit ce mouvement, alors il ne sera pas stoppé. La parole de Dieu fera l'accomplissement de ce que Dieu a décidé.
Amen.
Et nous voyons ce qu'il en est aujourd'hui, parce que nous avons cru à cette même parole que les apôtres ont prêchée. Donc si le christianisme est des hommes, alors le Sanhédrin n'a pas besoin de s'y opposer, ça va s'arrêter tout seul, comme on dit, c'est un feu de paille. Oh, ça commence là, ils prêchent, les malades sont guéris, le peuple y croit, etc. Mais vous donnez-leur 2-3 mois, ça va s'arrêter. Mais si c'est de Dieu, ah non, là ça ne pourra pas s'arrêter. le christianisme triomphera malgré leur opposition et ils prendront le risque quoi ? De s'opposer contre Dieu. Prenez garde de ne pas avoir Dieu contre vous. On voit que ce sont des paroles pleines de sagesse de la part de Gamaliel. Donc, avec son intervention, on voit comment Dieu peut utiliser n'importe qui, donc quelqu'un qui faisait partie du Sanhédrin, qui déclare que la parole de Dieu va continuer de s'accomplir. C'est grâce à un membre du Sanhédrin que les apôtres ont pu être relâchés, et ça nous montre comment le Seigneur est souverain de toutes choses. Le fait que ce soit un des leurs qui parle les a vraisemblablement apaisés. Quand c'était Pierre qui prêchait, ils étaient excédés. Mais là, quand c'est Gamaliel, donc un des leurs qui a pris la parole, ils ont écouté, c'est comme s'ils se sont un peu apaisés. Ils se disent, bon, on va les sortir, on va leur donner 2-3 coups là. Mais l'évangile a continué. Gamaliel est intervenu, mais on aurait aimé lire que Gamaliel a donné sa vie à Seigneur. Parce que c'est vrai qu'il dit que voilà, si c'est l'affaire des hommes, ça va s'arrêter. Mais si c'est l'affaire de Dieu, ça va continuer. C'est comme avec Nicodème, dans Jean chapitre 3. Il est venu voir Jésus, il a dit « Oui, mais on sait que tu es un docteur, un prophète, que si Dieu n'était pas avec toi, tu ne pourrais pas faire ces choses-là. » Jésus l'a prêché, « Oui, il faut naître de nouveau. » Vous connaissez Jean 3,16, non ? Donc, Jésus a exposé les vérités devant Nicodème. Mais on ne sait pas si Nicodème, au final, il a donné sa vie au Seigneur. La Gamaliel, il a reconnu. Si c'est l'œuvre de Dieu, ça va continuer. Si c'est l'œuvre des hommes, ça va s'éteindre. Mais pourtant, on a déjà vu que les apôtres ont commencé à prêcher. La parole a été annoncée. Les malades ont été guéris. Ils ont vu qu'il y avait déjà du fruit. Mais est-ce qu'il a donné sa vie au Seigneur ? On peut connaître, on peut voir l'action de Dieu. Mais quelle décision tu prends ? Tu vois l'action de Dieu dans la vie des gens, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu reconnais que oui, c'est vrai, Dieu a agi, mais toi, quelle décision tu prends ? On aurait aimé lire. Oui, mais Gamaliel est parti avec Pierre et les apôtres prêcher. Là, on aurait été, voilà, en feu. Voilà. Tu entends la parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais ? Tu vois l'action de Dieu dans la vie des autres, qu'est-ce que tu fais ? Quelle décision tu prends ? Encore une fois, le conseil n'a rien pu faire d'autre que de battre les apôtres. À la prédication de l'évangile, ils ont répondu par des coups. Toujours le cœur endurci, ils ne changent pas de position. Ils leur défendent encore une fois de parler au nom de Jésus. Les membres du Sanhédrin, eux, ils veulent stopper l'évangile. En maltraitant les disciples, ils ont souffert, ces apôtres. Et quand on parle de persécution, c'est quand même un mot qui est fort. On prie souvent pour les gens qui sont persécutés. On a cité tout à l'heure dans les prières les gens qui quittent leur pays pour annoncer la parole de Dieu. On voit face à quelle opposition ils doivent faire face. C'est pourquoi on doit toujours prier pour eux. Et là, les disciples ont été battus de verges. Vous voyez les verges ? Tu mets un coup, il y a un morceau de peau qui revient. C'est difficile pour annoncer la parole de Dieu. La Bible dit que la main de Dieu était avec eux. Tous les jours, le Seigneur rajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Mais ils ont dû payer quand même. Ils ont dû payer pour annoncer la parole de Dieu. Mais eux, ils étaient quoi ? Dans la joie de faire l'œuvre du Seigneur. Donc voilà pourquoi on doit continuer de prier pour eux. Prier aussi pour que le Seigneur touche justement ces bourreaux-là. On voit aussi toujours dans les Actes, quand Paul et Silas sont dans la prison, la prison s'effondre et il y a le geôlier. Voilà. Puis, Paul et Silas l'ont approché et il a cru au Seigneur. Donc on doit prier aussi pour que le Seigneur, il a la capacité de changer les cœurs des gens. Amen. Les disciples auraient pu se révolter, mais la Bible nous dit qu'ils étaient joyeux de subir les outrages pour le Seigneur. Quelle foi ! Les gens, on les a battus. Ils n'ont rien fait de mal. Et on les a battus. Et eux, ils étaient dans la joie. C'est vrai que le Seigneur Jésus les a avertis de la difficulté du ministère. Être dans la joie quand on te donne des coups. Quel niveau de foi. Eux, ils considèrent que c'est un privilège. On peut remercier le Seigneur d'être dans un pays libre. Mais on ne doit pas oublier ceux qui sont dans des pays dans les difficultés. N'oublions pas que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Peut-être que la persécution viendra ici aussi. L'apôtre Paul dit que dans les derniers temps, les gens vont renier la foi. Qu'est-ce qui va arriver ? On doit se tenir prêt, mes amis. Eux, ils étaient dans la joie parce qu'ils avaient part à l'œuvre de Dieu. Est-ce que nous, nous sommes aussi dans la joie quand on a part à l'œuvre de Dieu? Alors continuons de nous accrocher à Dieu. Peu importe les circonstances, l'évangile doit être proclamé. Amen.
Amen.
Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur Tout-Puissant. Merci parce que nous voyons, Seigneur, dans ces écrits, comment tu as agi tout au long de l'histoire, Seigneur, pour que ta parole, Seigneur, soit manifeste, Seigneur Tout-Puissant. Seigneur, nous savons que ta parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans effet. Mais nous voyons aussi comment l'ennemi est là, Seigneur, pour nous persécuter. Mais Seigneur, nous voulons vraiment nous accrocher à toi, Seigneur. Comme les apôtres, Seigneur, se sont accrochés à toi, Seigneur. Ils ont souffert, Seigneur, mais ils étaient dans la joie, Seigneur. Ils étaient dans la joie parce qu'ils faisaient ce à quoi tu les avais appelés, Seigneur Tout-Puissant. Seigneur, tu sais qui tu as appelé, Seigneur Tout-Puissant. Et je te prie, Seigneur, de nous augmenter la foi, Seigneur. Afin que notre foi ne défaille pas, Seigneur, quand les temps seront difficiles, Seigneur Jésus. Je te prie vraiment de fortifier chacun de nous, encore ce matin, Seigneur, et de nous accorder vraiment la grâce de nous approcher de toi, comme toi tu es proche de nous, Seigneur Tout-Puissant. Et touche aussi toutes ces personnes qui sont hostiles à l'Évangile, Seigneur Tout-Puissant, parce que toi tu peux changer les cœurs, Seigneur Tout-Puissant. C'est toi qui décides, Seigneur, c'est toi qui peux appeler les personnes, c'est toi qui les sauves et c'est toi qui les guéris, Seigneur Jésus. Sois béni, sois élevé, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Amen.